Bon, ben, comme on a beaucoup de temps d'avance, on va faire appel à Jean-Claude Roberdo et Caroline Idir. Donc, pour avoir quelques nouvelles des orchidées de la région centre.
Et oui, ça va être des nouvelles, mais pas des bonnes nouvelles. oui. Bon, ben je vais présenter avec Caroline ces bonnes et ces mauvaises nouvelles. C'est-à-dire que nous avons, à la SFO, nous avions fait un premier atlas en 2002 et depuis nous avons repris les inventaires et sur nos nouveaux inventaires, eh bien, nous remarquons certains événements, certaines choses qui ont changé. Voilà. Hein. On a même des fois des difficultés pour pouvoir retrouver certaines espèces. Ah, c'est celle-là. Oui. Alors, je vais vous parler espèce par espèce, mais je n'ai pas mis toutes les espèces où il y a des problèmes parce que la liste est longue. Alors, naturellement, j'en ai pris une des premières qui est vraiment une espèce qui était en grande quantité au 19e siècle et qui, aujourd'hui, est en voie de disparition. Là, je viens d'en parler avec François, justement, avec François Pinet. Ils en ont encore au moins une station dans l'Indre. Mais la station du Cher, on n'en entend plus parler depuis longtemps. Et puis celle de l'Indre-et-Loire, eh bien, pareil. Alors, Anacanthis palustris. Anacanthis palustris avait été mis dans les espèces protégées dans la région centre, était présente un petit peu partout. Excusez-moi, c'est la confusion avec l'axiflora. Bon, Anacanthis palustris est une espèce rare en France. nous avions quelques stations, nous en avions dans l'Indre-et-Loire. Dans l'Indre-et-Loire, eh bien, je crois qu'elles ont toutes disparu, hein, puisque je crois que dans une des principales stations, elle a été transformée en lagunage. Bon, pas terrible. Hein. On en avait découvert une nouvelle dans le Loir-et-Cher, qui, elle, malheureusement, a été victime dernièrement des inondations de l'année dernière. Et cette année, sur cette station, personnellement, j'en ai compté que 4 pieds, qui n'étaient pas bien gros. Bon, pareil, en voie de diminution. Et quant à celles qu'on trouve en Brenne, ben souvent, ce sont des prairies qui ont été ou asséchées, ou voire certaines prairies qui ont fini par se fermer. Donc, une plante encore qui est en danger dans notre région. Alors, j'ai pris qu'une seule Dactylorhiza, puisqu'on peut dire que la quasi-totalité des Dactylorhiza ont des problèmes. Hein, on peut parler comme ça. À part vraiment Dactylorhiza erysetherum, qui, elle, est relativement courante dans notre région, les autres sont en diminution. Nous, dans nos inventaires actuellement, on avait plusieurs stations dans le Loir-et-Cher. J'en ai pas revu une seule pour l'instant. Hein, malgré on la recherche et pas une seule. Dans les autres départements, je ne sais pas trop comment c'est, mais c'est dans le Loiret, tu as eu des découvertes, toi, par contre. Dans l'Indre, bien, certaines stations sont en train de se fermer. Je ne sais pas où c'en est parce qu'on n'arrive pas toujours à pouvoir les visiter. Et pareil, vous voyez, ça fait. Là, je parle que du mauvais hein, pour l'instant. Hein. des stations qui sont en danger. Epipactis atrorubens, qui est une espèce qui est relativement courante en France, dans la région centre, était rare. Elle était rare et. Pareil, malheureusement, ce sont des pelouses calcaires. Ce sont des pelouses calcaires où elles étaient en petit nombre en général et qui sont également en train de se fermer. Il faut encore revérifier si on les retrouve. Hein. Donc, c'est pas évident. Epipactis palustris. Alors, voilà une chose formidable. On peut trouver des stations avec plusieurs milliers de pieds. Eh bien, c'est pareil. Dans le Loir-et-Cher, je les cherche, je ne les trouve plus. On en avait pas mal sur le bord de la Saulre, plus rien. On en avait pas mal aussi dans la région de Cheverny, plus rien. Je ne sais pas où on en est. Quant à celle de la Brenne, je parle par exemple de la région de Saulnay où il y avait des grandes quantités. Il y avait une prairie qui était pâturée par des chevaux où on trouvait des milliers et des milliers. Bah, pareil, plus de pâturage, plus rien, une prairie en train de se fermer. Je ne sais pas trop où on en est. Quant à la prairie de derrière, c'était pareil. Ça se ferme, on ne sait toujours pas où on en est. Donc, des plantes qui sont, pareilles, en voie de, s'ils sont pas en voie de disparition, qui régressent quand même très fortement. Gymnadenia odoratissima. Alors là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Bon, la station que je connais en Brenne, pareil, il faudra la vérifier, mais pas, c'est dans des zones privées qui ne sont pas faciles d'accès. Par contre, celles que l'on trouvait soi-disant dans l'Indre-et-Loire, dans le sud de l'Indre-et-Loire, eh ben, ce ne sont pas des Gymnadenia odoratissima en général. C'est une espèce qui a été décrite il y a très longtemps, au siècle dernier, et qui a été redécouverte, qui s'appelle Gymnadenia pyrénéica. Ce sont des Gymnadenia que vous retrouvez sur des pelouses calcaires, mais des pelouses calcaires plutôt sur des marnes, et marne relativement humide pendant l'hiver et très sec pendant l'été. Et c'est une plante qui est intermédiaire entre Gymnadenia odoratissima et Gymnadenia conopsea, mais qui s'est révélée être une espèce différente. Je crois même qu'au niveau phylogénique, on a trouvé une différence. Donc ça pose pas de problème pour la nomenclature. Seulement, pareil, c'est encore une espèce qui est rare, et voire en disparition. Spirante estivalis. Alors, Spirante estivalis, cette espèce, je ne sais pas si elle a été revue dans l'Indre, je crois que oui. Si on l'a actuellement, c'est uniquement dans l'Indre. Elle avait été observée également dans le Loir-et-Cher. Hein? Estivalis, oui, je dis bien estivalis. A été observé également dans le Loir-et-Cher. Malheureusement, c'est une propriété privée et c'était une station. Bon, il faut vous dire que c'est une plante qui apparaît, qui disparaît, qui, selon les conditions, c'était une plante qui s'était développée sur des fouilles de sangliers. Hein, donc, elle peut être relativement pionnière. Donc, disparaître et réapparaître. Pour l'instant, pour l'instant, il n'y a que celle vraiment de l'Indre que l'on retrouve. Je crois qu'ils en avaient deux stations. Il y en a une qui a dû être détruite par un problème parce que ça se trouvait sur un chemin par un problème d'ornière, je ne sais pas trop quoi, et l'autre qui doit être encore en place. Alors, les vrais disparus. Alors, les vrais disparus, bon, celles-ci, on le sait, hein, c'est des plantes dont on parle au 19e siècle et qui ont disparu. Hein, Amarbia, sur votre droite, qui elle est disparue, qui était en forêt de Chinon, elle est disparue. Bon, le milieu est fermé déjà aujourd'hui, donc il aurait disparu, ne serait-ce que par la fermeture de son milieu, mais à l'époque a été détruit par les botanistes qui faisaient des séries de sang. Après, vous avez le Liparis, Liparis loselli, était présent dans le nord du Loiret, du côté de l'Essonne, hein, par là, en assez grande quantité. Assez grande quantité, c'est relatif, hein, pour Liparis. On avait au moins deux stations sur le Loir-et-Cher, c'est-à-dire sur les bords de la Cisse et à Cheverny où maintenant il y a un golfe. Mais à l'époque, ces stations ont été assainies, ont été transformées ou en étang ou en pièces d'eau, et donc la plante a disparu. Dactylorhiza sambucina, ben ça c'est assez particulier. Cette plante-là, on en découvrait, on peut dire un exemplaire par-ci, un exemplaire par-là. En gros, ça n'a jamais été une plante qui a été bien implantée dans notre région. Et le peu de plantes ont fini dans les herbiers. Hein? Bon, bah, c'est une époque où on faisait des herbiers. Hein? On ne peut pas porter de jugement là-dessus. Hein? Alors, les nouveautés. Ben, je vous ai parlé de Gymnadenia Pyrénéica, à droite, hein, et je vous ai donné la description. La photo, vous voyez, elle a été prise dans le sud de l'Indre-et-Loire. Hein. Donc, c'est une nouvelle espèce, mais pas parce qu'on connaît mieux les plantes et qu'on maintenant, on sait que celle-ci n'est pas Gymnadenia odoratissima, mais Gymnadenia Pyrénéica. Pareil pour Epipactis eliborine, la variété mineure. La variété mineure, alors ça, c'est certains la mettent en sous-espèce, d'autres en variété, mais je pense qu'elle mérite plutôt le statut de variété que de sous-espèce d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une appréciation personnelle. Hein, ça. Cette plante que l'on disait rare en France, il y a une quinzaine d'années, je peux prendre une faux pour en couper des milliers et des milliers si je veux en Sologne. Hein, et puis il y en a un peu partout et en très 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 grande quantité. Mais c'est par méconnaissance hein, qu'on ne la citait pas. Donc maintenant, ben, puisqu'on sait qu'elle existe, elle est là. Mais bon, maintenant, à vous d'aller la voir. Hein, dans tous les massifs forestiers. Humide l'hiver, sec l'été, vous trouvez cette plante, sauf en général la vraie Epipactis eliborine, on va la trouver plutôt dans des terrains plus profonds, plus frais, et souvent c'est une plante qui suit les cours d'eau, la vraie eliborine, et puis elle est beaucoup plus grosse. Alors ça, c'est on va vous parler. Je vais parler d'abord de Passionis, puisqu'on va finir tout à l'heure avec Caroline, avec Himantoglossum robertianum. Alors, Ophrys passionis, c'est Jean-Pierre Amardeil qui l'aurait découvert en Indre-et-Loire. Je suppose que c'est dans le sud de l'Indre-et-Loire, parce que c'est une plante quand même qui est plutôt méditerranéenne, qui aime bien les zones très, très, très chaudes. Il faudra que je lui demande cette précision, mais il y a de grandes chances que ce soit dans cette région. C'est une personne qui est de la région de Richelieu, donc ça vous donne une idée de quelle zone où il a du tout la trouver. Alors, ça ressemble à un sphécodès, avec, vous voyez, la cavité stigmatique qui est très noire, le champ basal très noir, une plante très noire, et des pétales très, très, très larges. Hein. Souvent plus précoce que Aranifera. Alors, ça demande quand même à être confirmé. La personne qui m'a donné cette information, c'est quelqu'un qui connaît bien les plantes. Donc, on peut lui faire confiance, mais malgré tout, ça demande à être confirmé, parce qu'il y a des petits détails quand même à voir pour vraiment pouvoir valider cette découverte. Himantoglossum robertianum. Alors, Himantoglossum robertianum. Imaginez-vous que cette plante-là, il y a 20 ans, était dans la liste nationale des espèces protégées. Et vous en voyez maintenant en Provence, partout sur le bord des routes, mais alors là, des quantités industrielles. Donc, elle a été retirée sur la liste des plantes protégées. Et puis, actuellement, Caroline va vous expliquer un petit peu, parce qu'elle a un tableau qui va vous donner plus d'informations. Hein, ce tableau va suivre. Cette espèce, eh bien, on en a découvert 3 stations dans la région centre. Il y en aurait une dans le Cher, je ne sais pas où. Il y en aurait une dans l'Indre, à Châteauroux. Et il y en aurait une, soi-disant, dans le Loir-et-Cher. Alors, la propagation, c'est la propagation des orchidées. Vous savez, ce sont des graines très petites, c'est de la poussière. Et je pense d'ailleurs, c'est pas moi qui pense ça, je ne suis pas tout seul à avoir ce point de vue-là, que ces graines sont dispersées par le vent et peuvent faire des kilomètres et des kilomètres. Et actuellement, nous avons des plantes, c'est une espèce qui a tendance à s'installer un petit peu partout en France. Et là-dessus, vous allez avoir Caroline qui va vous parler de cette plante.
Donc le fait qu'elle ait été observée dans la région centre, c'était assez intéressant. Et on a voulu savoir qu'est-ce qu'il en était au niveau national. Donc il se trouve que la SFO a un site participatif donc ou avec beaucoup d'observations. Nous vous encourageons d'ailleurs à y aller, à compléter. Et dans ce site, j'ai fait une recherche en fait sur plusieurs années. Qu'est-ce que l'on avait par rapport à cette plante? Donc on voit bien qu'en 2015, tous les points rouges correspondent en fait à la zone de répartition et la surface du point correspond évidemment à l'intensité, au nombre de pieds. Pas la surface de la station, mais au nombre de pieds. Donc c'est l'abondance. Donc là on voit bien que c'est le pourtour méditerranéen et ça remonte le long de l'A6, donc les couloirs chauds. L'A6, je vous ai dit. L'A6. C'est l'A6. L'A6. Non, l'A6, voilà, l'autoroute A6, voilà. Et lorsqu'on la reprend, c'est vrai qu'on en voit, mais alors partout. Donc ça, c'était en 2015. Malheureusement, ce site n'est pas très très ancien, donc on ne peut pas remonter tellement au-delà, ou sinon c'est trop parcellaire et on ne peut pas se fier. Donc, déjà en 2015, il y a eu deux spots extérieur. Alors, je ne sais pas si vous les voyez, évidemment. Heureusement, j'ai mis une grosse auréole autour, mais le point... Pardon. En Bretagne, il y a deux points ici, et en Lorraine, il y a un point. Donc déjà, ça nous avait un petit peu intrigués. Nous avons poursuivi 2016. Donc, à ce moment... Je n'en ai pas pour très longtemps. Donc, 2016, on a regardé les points précédents y étaient toujours... C'est-à-dire qu'on connaît les personnes, on les a contactées, ils y étaient là. Et en plus, cette fois-ci, région parisienne. Et là, je ne sais plus où est-ce que c'était, Poitou-Charentes, oui, limite avec la Touraine. Donc 2016 et 2017, cette fois-ci en Haute-Savoie. Donc ça, c'est assez intéressant parce que finalement, on est en altitude. Et là, on a confirmation, c'est un monsieur... Un petit papy qui était très très fier de pouvoir montrer ça à la cartographe locale. Et puis évidemment, y a chez nous. Donc après, à partir de là, nous, on a essayé de savoir, finalement, de contacter les gens qui avaient fait cette observation. Qu'est-ce qu'il en était? Donc dans un certain cas, on s'est aperçu qu'en Lorraine, finalement, c'est une contamination par une plante ramenée en pot de pays de l'Est qui avait grainé sans doute chez le voisin. Mais cette plante était dans une véranda. Et on suppose que c'est à cause de ça. Et cette plante, elle demeure. Donc, tous les ans, on vérifie. Pour la Bretagne, malheureusement, cette année, on a bien demandé à la personne d'aller voir ces deux stations, si elles y étaient toujours, pour voir si, justement si ça durait ou pas. Et malheureusement, il n'a pas eu le temps de les visiter. Et après, il ne les voyait plus. Donc, voilà. Donc, on a un œil particulier sur...